Bien, comme d'habitude, nous allons demander à l'Esprit Saint de faire descendre en nous les paroles qu'il veut que nous retenions. Que lorsque nous aurons quitté ce lieu de culte, il y a quelque chose de sa part qui reste profondément inscrit dans nos pensées, dans nos cœurs. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi pour comprendre en profondeur ce que tu veux nous dire ce matin encore. Merci pour ce temps de liturgie, Seigneur, cette profondeur qui a émergé, Seigneur, des paroles que nous avons entendues. Merci pour la lecture de ta parole que nous allons lire et commenter. Que ton Saint-Esprit soit vraiment avec nous, Seigneur, pour qu'elle ne reste pas une lettre morte, et qu'elle porte du fruit pour ta gloire. Amen.
Amen.
Alors aujourd'hui, je vais vous lire un psaume très court, le psaume 133. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Le psaume 53 que je viens de lire fait partie des 15 psaumes qui ont pour titre « Chant des montées ». Il s'était chanté par les nombreux pèlerins juifs qui se rendaient au temple de Jérusalem pour les fêtes annuelles. Pourquoi ce titre « Chant des montées » ? Parce que Jérusalem est à 754 mètres d'altitude, alors qu'à 33 km de Jérusalem, la mer Morte est à moins 400 mètres au-dessous du niveau de la mer. Donc, à part les pèlerins qui habitaient Bethléem, qui est à peine plus haute que Jérusalem, les autres pèlerins devaient monter pour aller au temple, un peu comme vous, à Thiers. Moi, je descends, moi. Dans ce psaume, David souligne le caractère agréable et doux de l'unité. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Dans ce verset, la Bible à la Colombe, qui est une Bible Louis II aussi, ajoute l'adjectif « uni ». Qu'il est doux pour des frères d'habiter unis ensemble. Ce mot « uni » ne figure pas dans le texte hébreu, j'ai vérifié. Mais il souligne bien ce que l'auteur a voulu dire. En effet, des croyants peuvent très bien demeurer ensemble sans pour cela être unis. Alors, ce n'est ni la sérénité, ni l'harmonie qui règne. Serez-vous surpris si j'affirme que, malheureusement, c'est souvent le cas dans les églises. À l'origine de nombreuses divisions, il y a souvent le caractère difficile du pasteur, ou celui du président du conseil, ou de membres assoiffés de pouvoir qui contestent systématiquement les décisions du conseil si elles ne leur plaisent pas. J'espère que vous avez compris que je parle de l'Église en général. On ne compte plus les communautés qui ont été obligées de se scinder en deux groupes à cause de tensions profondes. Celui qui s'en va, emmenant avec lui une partie des membres de l'Église, affaiblissant ainsi le corps du Christ, en créant un traumatisme durable qui met des années souvent à guérir et qui donne au monde un contre-témoignage de ce qu'est l'Église telle que Jésus voudrait qu'elle soit. Une de mes anciennes paroissiennes avait l'habitude de dire, lorsque Christ bâtit une église, le diable construit une chapelle juste à côté. En langage plus biblique, c'est exactement ce qu'a écrit l'apôtre Pierre. Je cite, « Veillez, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, résistez-lui, ferme en la foi et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Alors, bien sûr, dans ce passage, Pierre cite la souffrance comme moyen qu'utilise l'ennemi de notre âme pour diviser les chrétiens. Mais l'ennemi utilise beaucoup d'autres moyens. Les tensions entre membres, les rumeurs, les non-pardons, les commérages, les jalousies, les clans, l'orgueil spirituel, le dénigrement, les médisances, les calomnies, le mensonge, bref, tout ce qui brise l'unité. Prenons conscience que le diable sait de quelle arme il doit se servir pour diviser. Et prenons conscience aussi que ces armes de division lui sont fournies par qui ? Mais par les chrétiens eux-mêmes. Même s'ils n'en sont pas toujours conscients. L'ennemi a parfaitement compris la pertinence de l'expression française « diviser pour régner ». C'est vrai en politique, c'est vrai en affaires, c'est vrai dans les familles et dans tous les domaines de la société. C'est donc aussi vrai dans l'Église. Dieu, lui, n'a qu'un seul moyen, un seul, pour briser et vaincre la division quand elle existe, et pour unir les croyants entre eux avant que la division fasse des dégâts. Quel est ce moyen ? C'est l'amour. L'amour, c'est l'essence même de Dieu en Jésus-Christ. Ce moyen est tout aussi puissant, est tout puissant. Pourquoi ? Parce qu'il émane de Dieu. Et Dieu veut le répandre en Jésus-Christ au sein des communautés, dans les cœurs des croyants qui s'ouvrent à lui. Alors pourquoi les relations harmonieuses dans l'Église sont-elles importantes ? D'abord, elles constituent un bon témoignage pour le monde. Et elles attirent des non-croyants à Dieu. Combien de millions d'hommes et de femmes qui ne sont pas passés encore par la nouvelle naissance ont quitté l'Église après un bref passage parce qu'ils n'ont pas vu de différence avec ce qui se passe dans le monde. S'ils ne trouvent pas plus d'amour dans l'Église, sur leur lieu de travail, que ce soit à l'usine, au bureau ou dans les milieux sportifs, etc. Mais pourquoi ferait-il l'effort de se lever de bonne heure le dimanche matin après une dure journée de travail pour venir au culte? Lorsqu'une personne complètement étrangère à l'Église fait l'effort, car c'est un véritable effort, fait l'effort de venir une ou plusieurs fois au culte, c'est qu'elle cherche quelque chose qu'elle n'a pas encore trouvé et qui lui manque. Ce manque a toujours un lien avec la quête de l'amour. avec la quête d'harmonie, de sincérité dans l'accueil, de climat de confiance et de sérénité. Tout ceci ne peut venir que de Dieu seul. Et c'est ce que Dieu veut nous donner pour que nous sachions le vivre ensemble et le partager avec d'autres pour les attirer à lui, Dieu. Les relations harmonieuses dans l'Église sont importantes aussi car elles aident les croyants à travailler les uns avec les autres. Dans son corps, qui est l'Église, comme le Seigneur le veut. Je cite Éphésiens 4, 2. En toute humilité, douceur et patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens 4, 2. Dans ce passage, supportez-vous les uns les autres signifie soutenez-vous les uns les autres. C'est pas, il m'énerve celui-là, je le supportais. Non, soutenez-vous. C'est le sens premier que donne la langue française à ce verbe. Paul souligne aussi dans ce verset, qu'est-ce qu'il souligne, qui est très important à comprendre ? C'est que c'est l'Esprit Saint qui crée l'unité et qui permet de la vivre. C'est donc quoi, cette unité ? C'est un don précieux de Dieu que les croyants ont le devoir d'entretenir et de conserver. Les relations harmonieuses ont un autre avantage. Elles renouvellent et revitalisent le service de Dieu en évitant quoi ? Le gaspillage d'énergie qu'engendrent les tensions. En effet, nous sommes tous conscients de l'énergie qu'il faut déployer, les soucis que cela engendre et le temps que l'on consacre pour apaiser les tensions. De plus, il y a un réel risque de découragement quand les tensions se multiplient. Et c'est autant de force que nous ne consacrons pas au service du Seigneur. Ceci dit, frères et sœurs, vivre dans l'unité ne signifie pas toujours être d'accord sur tout. Il peut y avoir plusieurs avis, tout comme il y a plusieurs notes dans un accord musical. Mais il y a des accords harmonieux et puis il y a des accords dissonants. Et ce sont ces derniers que les chrétiens doivent absolument harmoniser. Sinon, ils contribuent à créer quoi ? Une discorde concernant quoi ? Le but de notre existence. Et quel est ce but ? Travailler ensemble, unis, pour la gloire du Seigneur. Prenons conscience que l'unité de nos objectifs dépend de la façon dont nous vivons réellement cette unité. Alors revenons au texte du psaume. Le psalmiste donne deux illustrations des bénédictions que procure l'unité. D'abord, elle est comme l'huile sainte utilisée pour la consécration du souverain sacrificateur. On trouve le texte de la consécration d'Aaron par Moïse dans Exode 29. Je cite, « Tu prendras l'huile d'onction, tu en verseras sur sa tête et tu l'oindras. » Remarquons que dans le psaume 133, l'huile d'onction est versée avec profusion. Puisqu'elle descend, elle est sur la tête, elle descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. Alors l'huile, c'est quoi ? L'huile, ça symbolise la joie. On voit ça dans le psaume 23. Ça symbolise aussi le réconfort. On voit ça dans Ésaïe, au premier chapitre, verset 6. Mais c'est aussi un signe de sanctification. Tu feras une huile pour l'onction sainte. Tu oindras Aaron et ses fils. Tu les consacreras afin qu'ils exercent pour moi Dieu, le sacerdoce, Exode 30. Cette huile, elle était si sainte que personne n'avait le droit d'en fabriquer ou de s'en servir pour un usage autre que la consécration des prêtres sous peine d'être exclus du peuple. Exode 30. La profusion de l'huile d'onction suggère quoi? La richesse avec laquelle l'Éternel bénit et sanctifie son peuple au moyen de quoi? De leur communion fraternelle. Je relis la première partie du verset 3 du psaume. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. Ici, le psalmiste compare la bénédiction que procure l'unité à la rosée rafraîchissante qui baigne le mont Hermon. Le mont Hermon, c'est la montagne la plus haute d'Israël, au nord-est du lac de Galilée, à environ 45 km. Je donne beaucoup de précision aujourd'hui, hein. Mais c'est pas pour rien. Si je donne cette précision géographique, c'est pour souligner quoi? Les conséquences bénéfiques qu'engendre l'unité des croyants, pour qui, pourquoi? Pour le reste du peuple. En effet, de même que l'huile ne restait pas seulement sur la tête d'Aaron, mais descendait sur sa barbe et sur le col de son vêtement, la rosée bienfaisante et porteuse de vie dévale les pentes du mont Aaron. Pour quoi faire? Pour rafraîchir spirituellement et donner la vie à tout le pays d'Israël. Le psalmiste précise, en effet, dit-il, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Si c'est pas une promesse merveilleuse, alors je comprends rien du tout. Qu'est-ce que c'est notre sillon à nous? C'est l'Église dans laquelle le Seigneur nous a placés. Si nous vivons dans l'unité, comme le Seigneur nous le demande, la bénédiction et la vie, V-I-E, capitale, nous sont promises pour l'éternité. C'est déjà une grâce inouïe. Mais cela va beaucoup plus loin. En effet, la bénédiction du Seigneur n'est jamais accordée pour être confisquée, mais pour être partagée. Cette bénédiction qui est le fruit de notre unité, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va ruisseler sur notre ville et nos villages, sur notre région tout entière, comme la rosée de l'Hermon ruisselait jusqu'à Sion. Et ce qui est vrai pour nous, Église de Thiers, est aussi vrai pour chacune des églises de notre pays. Frères et sœurs, combien d'entre vous sont en train de se dire intérieurement, Oh, il est gentil, Alain. Mais il faut être réaliste. Yann, tu oses le dire.
Que tu es gentil.
Ah, j'ai eu peur. Alors, si c'est le cas, frères et sœurs, parce que je suis sûr qu'il y en a, et je ne veux pas savoir les noms, non. Si c'est le cas, rappelez-vous ce que Jésus a dit à ses disciples, juste avant de remonter vers son Père. Vous recevrez, a-t-il dit à ses disciples, une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Où ça? À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités du monde. Actes chapitre 1, verset 8. C'est les extrémités du monde, c'est-à-dire la terre connue à l'époque. Et c'est bien ce qui a eu lieu. Combien d'hommes sont à l'origine de cette expansion incroyable de l'Évangile dans tout le bassin méditerranéen? Combien? 12 disciples, Paul, et puis il y en a un qu'il ne faut pas oublier, l'Esprit Saint. En combien de temps, frères et sœurs? À peine quelques décennies. Comme en témoigne le livre des Actes des Apôtres. Je ne suis pas historien, hein. C'est les Actes qui nous le disent. Qu'est-ce que l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Christ, de Jésus-Christ? Qu'est-ce que l'Évangile, sinon une bénédiction divine, une vie en plénitude qui commence sur cette terre et se poursuivra dans l'éternité? Dieu avait dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction. Genèse 12. Abraham avait été béni par Dieu et il a été une source de bénédiction pour les nations. C'est ce que Dieu désire pour chaque communauté chrétienne. Les bénir, oui, les bénir, et faire d'elles des sources de bénédiction. Mais il y a une condition, laquelle? Que chaque communauté soit unie. Frères et sœurs, dans notre prière de chaque jour, plaçons-nous devant le Seigneur pour lui demander sincèrement de nous montrer ce qui en nous, dans notre personnalité, dans nos façons de parler, dans nos façons d'être, ce qui peut faire obstacle à l'unité de notre Église. N'ayons pas peur, frères et sœurs, d'entendre sa réponse, la réponse de Dieu. Et si c'est nécessaire, mais mettons-nous à genoux et demandons-lui pardon. Dieu a dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi je l'écouterai des cieux et je lui pardonnerai. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai
quoi son pays.
Tu veux faire en sorte, Seigneur, que les mots que nos lèvres prononcent ou les mots que nos yeux voient ne soient pas comme de la buée, de la fumée, qui ne reste que quelques secondes et qui s'évapore et on ne sait même plus ce qu'étaient ces mots, Seigneur. Non, au contraire, s'il te plaît, que ces mots qui ont été inspirés par le Saint-Esprit à travers les écrivains bibliques, Seigneur, se gravent dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos vies, Seigneur. Qu'est-ce que c'est que la gravure? C'est quelque chose qui est absolument, qui est presque impossible à effacer. Et c'est ce que nous te demandons, Seigneur, que les paroles que tu adresses à notre cœur pour guérir notre communauté, pour tout ce qui va dans le sens de l'harmonie, dans le sens de l'unité, que ces paroles soient gravées dans nos vies. Amen.
Amen.